Les Voix de service magazine, mercredi 6 décembre 2017. Bonjour et bienvenue en compagnie d'Isabelle Falard-Serge Bradet. Bonjour Serge.
Bonjour, bonjour.
Avec un micro, ça va aller mieux.
Oui, le micro était très haut perché ce matin.
Et on dit bonjour encore à Daniel Lachance qui se fait chauffer la couenne au soleil quelque part dans le sud, qui est absent cette semaine, mais qui devrait nous revenir tout bronzé la semaine prochaine. Ce matin, moi, je vous parle de la plateforme Vimeo qui permet à un premier court-métrage autochtone de se propulser à l'international. Je vous parle aussi d'un traducteur à la commission, l'enquête sur les femmes autochtones disparues. Et puis, un livre qui nous plonge au cœur du racisme systémique. Et de votre côté, Serge?
Oui, alors, je vais vous parler d'une grande maladie. Enfin, d'une des grandes maladies. Aujourd'hui, on pense que c'est disparu, mais il y a encore près de 3 millions de personnes qui en souffrent, la lèpre.
Ah oui, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est disparu.
Oui, mais encore 3 millions. C'est parce que c'est dans des régions qui sont un peu loin de nous que ça sévit encore. Mm-hmm. Et ensuite, en 1971, il y a 46 ans, c'était la fin du monde à Saint-Jean-Vianney. Un éboulement de terrain effrayant, un glissement de terrain, pardon, qui a... Et on a dû fermer Saint-Jean-Vianney après ça. C'est une municipalité qui est disparue.
Carrément.
On a déménagé tout le monde parce que c'était trop dangereux. Je vous parlais de ça. Et ensuite, que sont devenues nos lettres d'amour?
Ah!
Oui, c'est un article un peu qui date de 2005, là, dans Cap-au-Diamant. J'ai hésité, je n'étais pas sûr est-ce que je vais le lire, tout ça. Mais il est encore d'actualité. C'est parce c'est un article qui dit qu'est-ce que ça va être dans quelques années. Alors, on est en 2005, là, on est en 2017.
Alors, on peut voir intéressant. Est-ce qu'effectivement, c'est devenu...
Oui, ça va être intéressant en tenant compte du recul, là où ça a été écrit en 2005, de ce que les gens pensaient à l'époque. Et alors, voilà.
Merci beaucoup. Alors, avec quel super sujet vous commencez?
La lèpre.
Ah, oui, bien sûr.
On va passer
ça
tout de suite. Ça va être réglé, oui. Alors, la lèpre... oui, tout d'abord, c'est un article qui vient de la revue Les Cahiers Sciences et Vie de l'été dernier, de juillet 2017. Alors, si les terribles hécatombes provoquées par la peste et le choléra ont marqué notre imaginaire collectif, ce ne sont pas les seuls fléaux à avoir terrifié nos ancêtres. Lèpre, paludisme, syphilis, mal des ardents, tuberculose, variole ont existé. Entre mythe et réalité, ces six maladies ont aussi hanté les siècles et notre mémoire. C'est un texte de Philippe Testard-Vaillant. Alors, elle ronge la lèpre. Elle ronge les chairs, déforme le visage, rend aveugle. Il n'est personne que ma vue ne dégoûte alors que mon corps tombe en pourriture, se désole, vers 1272, le poète Baude Fastoul. Vieille connaissance du genre humain, la lèpre suit nos migrations depuis 100 000 ans, surtout sous sa forme lépromateuse, c'est-à-dire qui entraîne des troubles du système nerveux, l'atrophie musculaire, la gangrène des membres, accompagnée ou non d'éruptions cutanées touchant les cartilages du nez et les cordes vocales, eh bien, ça a toujours et partout suscité, évidemment, l'horreur.
Oui.
On voit ça des fois dans certains films d'époque, là, où c'est assez... ça fait mal au cœur de voir ça.
On en a peur, hein?
Oui. Sévissant probablement en Mésopotamie, Égypte et Palestine dès le deuxième millénaire avant notre ère, quand même assez loin, cette infection rime avec exclusion dans l'Antiquité. À en croire l'historien grec Hérodote du 5e siècle avant Jésus-Christ, si l'un des Perses a la lèpre, il ne vient pas en ville et il n'a pas commerce avec les autres Perses. C'est, disent-ils, pour avoir commis une faute contre le soleil qu'il souffre de ces maux. On attribue toujours ça
de quelque chose de pas bien qu'on a fait.
Présente en Occident au moins depuis le 1er siècle avant notre ère, la lèpre y connaît son âge d'or entre la fin du 11e siècle et le milieu du 13e siècle. Âge d'or, si l'on peut dire. Hein?
Mm-hmm.
Avant de s'effacer progressivement vers les 14e et 15e siècles. On ne sait pas précisément pourquoi la lèpre décline au bas Moyen Âge, pour s'éclipser ensuite, reconnaît Bruno Tabuto de l'Université de Picardie, Jules Verne. L'explication la plus vraisemblable est un bouleversement de la pathocénose, c'est l'ensemble des états pathologiques présents dans une population déterminée à un moment donné. provoquée par l'irruption de la peste au milieu du 14e siècle et les progrès supposés de la tuberculose, dont la bacille serait antinomique de celui de la lèpre. C'est intéressant parce que...
Je m'avais un peu perdu.
Oui, mais ça veut dire, c'est ça, c'est l'irruption de la peste au milieu du 14e siècle puis les progrès de la tuberculose auraient freiné la lèpre.
Ah, d'accord.
Oui, il y a quelque chose qui se serait passé dans l'organisme. Là, qui
Donc,
aurait...
un mal pour un bien, finalement.
Oui, un mal pour un bien. Ben là,
la
peste,
ou...
ça a tué peut-être plus de monde que la lèpre, je
pense. Oui, oui, peut-être. Fait... Ben, on ne sait pas combien ça en aurait tué si ça n'avait pas été freiné en même temps.
Oui, ben c'est ça, oui. Mm-hmm. Un signe d'impureté, le salaire du péché. On y arrive. Frappant toutes les couches sociales, le fléau, dont le taux d'endémicité ne doit pas dépasser 2 à 3 % en moyenne, terrifie les populations autant qu'il fascine. Le comportement de la société européenne médiévale à l'égard des lépreux, est ambivalent, c'est-à-dire tout à la fois redoutable et charitable, explique Damien Jeanne du Centre des recherches archéologiques, historiques, anciennes et médiévales de l'Université de Caen en Normandie. Perçu très tôt comme une punition divine, sanctionnant un acte sacrilège, une transgression sexuelle par exemple, la lèpre passe pour un signe d'impureté, le salaire du péché. Les lépreux traînent une réputation d'être libidineux, brutaux, ivrognes, menteurs, malodorants, poursuit Damien Jeanne. Dans le roman de Tristan de Béroul du 12e siècle, Tristan contrefait le lépreux et se fait passer pour un débauché qui doit le mal qui le ronge à l'adultère.
Ah oui, ça, l'adultère, ça, c'est oui. Un gros péché.
En période d'épidémie, les ladres peuvent être pris à partie par la foule et lynchés. Rien de moins. Ah. Accusés en 1321 en Aquitaine d'avoir empoisonné l'eau des puits et des sources, certains lépreux sont conduits au bûcher. Non moins terribles, les lépreux admis dans une léproserie sont considérés comme symboliquement morts au terme d'une cérémonie religieuse dite de séparation. Mais attention, ce rituel d'exclusion, au cours duquel on procède à un simulacre d'inhumation, est très tardif. Il n'apparaît pas avant le 15e siècle, quand la lèpre décline et inquiète paradoxalement beaucoup plus les autorités et les populations et ne concerne que quelques diocèses du nord de la France, insiste Bruno Tabuteau. Du 11e au 13e siècle, où le nombre des léproseries explose dans le monde chrétien en raison de la plus grande attention portée aux lépreux, dont les souffrances rappellent le martyre du Christ, ces institutions ne sont nullement des lieux d'enfermement ou de ségrégation. L'idée de leur internement et de leur rejet systématique au Moyen-Âge est un mythe. La léproserie, dont les revenus proviennent de la charité, est un lieu de vie ouvert où cohabitent lépreux et personnes saines, des religieux ou des familiers, et où les conditions de vie matérielles, la nourriture, les vêtements, le chauffage, sont relativement bonnes, semble-t-il. Les malades jouent même au jeu de paume dans l'église de la léproserie Saint-Lazare, à Falaise, en Normandie. La lèpre, au Moyen-Âge, est aussi perçue comme une humiliation qui élève selon le principe du bouc émissaire incarné par le Christ, ajoute Damien Jeanne. Les lépreux entrés en léproserie, de leur plein gré, sont les pénitents que l'on accueille par une cérémonie semblable à la réception d'un moine qui meurt au monde, mais qui intègre une communauté fraternelle. À partir du 13e siècle et au bas Moyen-Âge surtout, les paroisses ou les groupes de paroisses réservent l'accès des léproseries à leurs seuls habitants. Les autres lépreux, sans moyens personnels, sont rejetés de la cohorte des mendiants et des vagabonds. Alors, le mode de transmission de la lèpre, c'était, et c'est toujours, par les voies respiratoires et peut-être par un contact cutané. Bon, on n'est pas sûr. Le plus ancien cas documenté serait un squelette vieux de 4000 ans, exhumé dans l'état du Rajasthan en Inde. Les principaux symptômes, ce sont des lésions cutanées et nerveuses. Les régions touchées aujourd'hui, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine.
Eh bien.
Oui, je ne pensais pas qu'en Amérique latine.
Non, moi non plus.
Je pensais que c'était Afrique et Asie, oui. Et le nombre de personnes infectées dans le monde, c'est tout près de 3 millions, c'est 2,8 millions.
C'est quand même beaucoup.
Oui, c'est beaucoup de monde.
Considérant
qui sont...
que d'après ce que je pouvais lire sur Wikipédia, cette source inestimable, c'est traité avec des antibiotiques maintenant. Donc, en tout cas, c'est étonnant. Mais bon, ce n'est pas toujours accessible.
Ben ça, c'est qu'en Afrique, en Asie, ils n'ont pas accès.
dans des régions
aux
plus
médicaments,
reculées,
quand on pense à l'épidémie de sida, qui pourrait être contrôlée selon les spécialistes, je fais une petite aparté, mais si on traitait tous les gens qui sont porteurs, mais qui ne sont pas, on les rendrait indétectables, ils ne pourraient pas contaminer d'autres personnes.
Non plus, ouais.
Donc la maladie s'est éradiquée en dedans de 20 ans, 30 ans, là, ça disparaîtrait de la surface du globe.
Alors encore une fois, pour éliminer la maladie, il faudrait éliminer la pauvreté, mais c'est pas demain la veille.
Ben oui, et l'instruction également.
Alors, sur une note plus joyeuse, je vous parle du court-métrage, la plateforme Vimeo qui propulse un premier court-métrage autochtone à l'international. C'est un texte de Marie-Laure Josselin que j'ai trouvé sur le site de Radio-Canada, publié le 30 novembre. Le court-métrage « Les outils de mon père » de Heather Kondo a été sélectionné par la chaîne Staff Pick Premiere de Vimeo, donnant à ce film autochtone une visibilité exceptionnelle sur la scène internationale. C'est la première fois que Staff Pick Premiere offre une telle tribune à un film autochtone. Lancée l'an dernier par le géant du partage de vidéos, Vimeo, cette chaîne divertit des millions de spectateurs dans 150 pays. Les outils de mon père, ou la traduction de My Father's Tools, produit par le Wapikoni Mobile, montre le travail d'un Micmac de Gesgapegyang au Québec. Bon, je l'ai appelé là, parce que j'ai lu sûrement mal prononcé. G-E-S-G-A-P-E-G-I-A-G. Donc, c'est au Québec. Donc, ce Micmac, Stephen Jérôme, créant des paniers traditionnels de la même manière que ses ancêtres. Tous les films du studio ambulant Wapikoni Mobile se retrouvent sur Vimeo pour leur permettre d'être vus, notamment par les festivals. Mais là, ce sont eux qui sont venus nous chercher pour mettre ce film sur Staff Pick Premiere qui représente un degré supérieur. Les gens qui vont dessus sont là pour voir des films exceptionnels, se réjouit l'agente aux communications du Wapikoni, Magenta Baribeau. C'est un des meilleurs propulseurs. Ils nous ont assuré qu'il y aurait au moins 150 000 vues, mais leur plateforme rejoint beaucoup plus de monde. C'est merveilleux de savoir que des gens partout dans le monde vont apprendre qu'il y a des Premières Nations au Canada et qu'elles sont extrêmement créatives. Une stratégie qui semble fonctionner puisqu'un article en coréen consacré au court-métrage est déjà sorti. Heather Kondo, dont c'est le premier film, voulait documenter le travail de son conjoint, dernier de sa région à fabriquer des paniers de ce genre en frêne noire. Il l'a appris de son père, qu'il a lui-même appris de son grand-père. Stephen Jérôme se dit encore surpris du chemin parcouru. C'était juste pour mettre ça sur film au cas où il m'arrive quelque chose. Mais ça permet aussi de montrer que ce n'est pas fabriqué en Chine et qu'il y a tout un travail derrière ça. Je l'ai fait pour ma communauté à la base. Je n'avais pas prévu que ça irait aussi loin. Je suis excitée. J'espère que ça va aussi servir à faire reconnaître l'art autochtone. C'est la réalisatrice Heather Kondo qui nous le dit. Elle souhaite déjà réaliser un nouveau film et espère que cette visibilité l'aidera. La première internationale du court-métrage de 6 minutes 30 s'est effectuée à Sundance en 2017 et le court-métrage autochtone a circulé dans plusieurs grands festivals dont Cannes, la Berlinale, le Seattle International Film Festival et Imaginative. Et en terminant, je voulais juste vous dire, je suis allée voir le film, le court-métrage sur Vimeo, c'est facile à trouver si vous allez sur la plateforme Vimeo, vous faites la recherche « My Father's Tools ». Ou sinon, l'adresse https://vimeo.com, V-I-M-E-O, /2448822764. Et malheureusement, c'est très visuel comme film, disons-le comme ça. Il n'y a pas du tout de narration, mais si vous pouvez voir, c'est vraiment, ça nous donne envie d'acheter un panier à la fin. On voit vraiment du début quand il va couper son arbre dans la forêt, quand il enlève l'écorce, il défait comment la technique pour défaire le tronc en plusieurs lattes. Vraiment, là, en 6 minutes 30, on voit toute la vie, le processus de création d'un panier. Un simple petit panier à poignée, là.
Un petit panier
pour aller cueillir des petits bleuets. Alors, voilà, c'était cet article sur « My Father's Tools, les outils de mon père ». «
enfants que le monde leur appartient.
Tinano, Tinano.
On peut croire en l'impossible et qu'on n'est pas les plus à plaindre.
Tinano, awa.
Pourtant on vient d'ici, on nous traite en étranger.
Tinano, tu m'échappes.
Par contre on est la preuve que les choses peuvent changer. Les paroles de cette chanson veulent changer la face du monde, veulent donner de la fierté, veulent nous sortir de l'ombre. Je suis peut-être trop optimiste, mais je suis vivant, donc j'y crois. La plume ou les doigts, j'écris une page de l'histoire. On est forts ensemble, c'est pour ça qu'on se rassemble. On est des frères dans l'esprit, c'est ce qui fait qu'on se ressemble. Si ensemble qu'on vaincra, si ensemble on leur dira que sur les terres du Canada, on est encore là. On est forts et fiers, on rassemble les nations. C'est la voix du peuple, le chant de la détermination. C'est le cri de victoire, c'est le cri de la liberté, c'est le cœur des guerriers, c'est la voix des oubliés.
Tinano, it's in the
faudra dire à nos enfants que le monde leur appartient.
Tinano, Tinano.
On peut croire en l'impossible et qu'on n'est pas les plus à plaindre.
Tinano, awa.
Pourtant on vient d'ici, on nous traite en étranger.
Tinano, tu m'échappes.
Par contre on est la preuve que les choses peuvent changer.
Tinano.
On n'est pas les victimes, mais une autre génération. Celle qui a le pouvoir de nous offrir un horizon. De rattraper le temps perdu, de rendre hommage aux aînés. Les rassurer en leur disant qu'on ne va pas abandonner. Ce sera long. Et les épreuves seront tenaces, faudra du cœur, du courage, de la force et de l'audace. En l'honneur de leur mémoire, on marchera sur leur trace, la tête haute comme des bras, parce qu'ici c'est notre place. Sans oublier qu'on est l'espoir de demain, qu'on a le pouvoir de réparer, de bâtir le monde de nos mains. Et quoi qu'il advienne, on reste ensemble, solide, car peu se souviennent qu'on est ce qui reste du génocide.
Aïe, aïe.
Mais qu'on n'est pas les plus à plaindre.
Tinano, awa.
Pourtant on vient d'ici, on nous traite en étranger.
Tinano, tu m'échappes.
Par contre on est la preuve que les choses peuvent changer.
Tinano,
alors on chante sur les pas du Makusha. Avec l'odeur de la sauge pour purifier nos âmes.
Tinano,
il est temps qu'on se lève, qu'on prenne position. On nourrisse nos rêves d'espoir et d'ambition.
Vous venez d'entendre l'artiste Samian, le rappeur, oui Samian, accompagné de Kashtin, qui nous chantait Chinano.
Merci beaucoup, Maurice. Et ben maintenant, on va parler de choses un peu plus gaies ou pas tant que ça?
Oui, ben pas encore. Non. Ben moins pire un
moins
peu.
Moins pire un peu. Ok.
Oui, oui, c'est ça. C'est la revue Cap au Diamant de l'été 2005 avait fait un spécial sur qui s'intitule Quand la nature se fâche.
Mm-hmm.
Alors c'est sur les différentes catastrophes naturelles qui sont arrivées au Québec. Alors je vous en nomme quelques-unes. Évidemment celle la plus près de nous, c'est en 96. Le déluge du lac Saguenay.
Oui.
Oui. Ben, on a eu des inondations aussi, des choses.
Oui. Mais c'est celle-là, vrai que la plus récente et la plus grave.
Oui, c'est en 96.
Oui.
À son remonte, en 1955, un glissement de terrain en Nicolet. En 1894, l'éboulis de Saint-Alban. En 1870, le grand feu du lac Saint-Jean, dont je parlerai peut-être dans une chronique à venir.
D'accord.
En 1773, catastrophe hydrologique en Beauce. Et en 1663, tremblement de terre, un gros tremblement de terre. Et le titre de l'article, c'est « Tremblement de terre ou pénitence ». Pénitence divine. Ou pénitence divine, une pénition de Dieu.
Mm-hmm.
Donc, ce dont je vous parle ce matin, c'est
Toujours Dieu, hein, qui nous pénit.
Oui. Alors, le 4 mai 1971, la fin du monde à Saint-Jean-Vianney. La soirée du mardi 4 mai 1971 s'annonce paisible. C'est un article d'Éric Tremblay. S'annonce donc paisible malgré la présentation à la télévision du premier match de la finale de la Coupe Stanley entre les Canadiens de Montréal et les Blackhawks de Chicago. À Saint-Jean-Vianney, plusieurs personnes se préparent pour le match. D'autres vont quitter pour le quart de nuit à l'usine Alcan d'Arvida, tandis que les enfants dorment déjà à point fermé. Malgré des bruits d'écoulement souterrain dans le sous-sol de certaines maisons, ou l'agitation de plusieurs animaux de compagnie depuis quelques jours. Ben, faut pas l'oublier, les animaux sont des bons avertisseurs. Hein.
Oui, c'est vrai. Ouais.
La population de Saint-Jean-Vianney n'appréhende aucunement le drame souterrain qui se prépare à son insu. Soudainement, vers 23 heures, un glissement de terrain sans précédent entraîne toute la population de Saint-Jean-Vianney dans une affreuse tragédie. Immédiatement, la perte d'électricité laisse les gens dans l'obscurité la plus complète. Ce contexte particulier provoque chez cette population, à moitié endormie, l'apparition de sentiments allant de la peur à l'incompréhension. Tout à coup, malgré la noirceur, on voit une dizaine de maisons disparaître dans une coulée de boue, emportant avec elles les occupants criant leur détresse. Quelques minutes plus tard, les témoins du drame se précipitent en direction du gouffre. Durant ce réveil brutal, plusieurs maisons poursuivent leur descente au fond du cratère. C'est un véritable cratère.
C'est terrible.
Ouais, on le voit d'ailleurs,
on voit
je vous montre
photos,
la photo.
Ouais,
là, ouais,
j'avoue. Ouais. Mm-hmm. C'est comme le Grand Canyon.
Absolument, oui, oui, oui. Mm-hmm. Les familles alertées par ce vacarme nocturne n'ont que le temps de sortir avant que leur demeure ne s'engouffre elle aussi. Du point de vue géologique, cette tragédie est l'aboutissement de centaines d'années de préparation. Elle est provoquée par les eaux d'infiltration qui minent graduellement la cohésion de l'argile. Le phénomène naturel arrive sans avertissement. Dès les premières minutes, plusieurs résidences et automobiles disparaissent dans l'énorme rivière vaseuse qui draine des tonnes d'argile en direction de la rivière Saguenay. La police, évidemment, se rend rapidement sur les lieux et tente de secourir le plus de gens possible. La situation est dramatique. La population de Saint-Jean-Vianney est sous le choc. Cet état de fait se traduit par de l'hystérie, de la peur, du découragement et une recherche effrénée, souvent dangereuse pour ceux et celles qui la font, des familles et des survivants de la tragédie. Aux petites heures du matin, la police, les survivants, les journalistes et les curieux constatent avec stupéfaction la gravité et l'ampleur du cauchemar qui vient de se dérouler pendant la nuit. Ce désastre naturel devient immédiatement le terrible éboulis de Saint-Jean-Vianney. À ce moment, les recherches officielles de survivants ne font que débuter, surtout avec l'arrivée d'un hélicoptère de la base militaire de Bagotville qui patrouille le cratère depuis l'aube. Dans la journée du 5 mai, les premières mesures de la part de la sécurité publique débutent sur les lieux du sinistre et visent particulièrement les soins promulgués aux sinistrés. Depuis 24 heures, la nouvelle a fait le tour du monde et les témoignages de sympathie envers les victimes et leurs familles arrivent de partout. Le bilan officiel s'alourdit d'heure en heure et l'inquiétude face à de nouveaux glissements est palpable. Le trou en forme de cercle d'environ 300 mètres de diamètre et de 60 mètres de profondeur, quelque chose.
60 mètres.
Oui. S'étend sur une bonne partie du village, surtout dans le secteur résidentiel. Il faut maintenant faire un premier bilan et s'occuper prioritairement des centaines de sinistrés qui se sont retrouvés en quelques minutes dans la plus grande indigence. Le bilan de la tragédie de Saint-Jean-Vianney demeure impressionnant. 31 personnes perdent la vie. Les pertes matérielles s'élèvent à plus de 2 millions de dollars. En 1971, là, aujourd'hui, ce serait... Je connais pas le je me risquerais pas après, mais
non,
c'est sûrement plusieurs millions.
Mais c'est déjà énorme.
42 maisons sont anéanties. Le nombre de familles sans logis est d'environ 240. 240 familles ont perdu leur logis. Et une population de près de 1700 personnes doit envisager très sérieusement d'aller s'installer ailleurs. Un fonds d'aide aux sinistrés de Saint-Jean-Vianney est immédiatement créé par Lauréat Lavoie, le maire de la municipalité, et René Boudreau, juge de la Cour et du bien-être social. Ce fonds vise à rassembler une somme d'au moins 1 million de dollars et à coordonner efficacement les différentes souscriptions recueillies. Immédiatement, on se met au travail en communiquant avec les compagnies, les industries, les regroupements de professionnels et les institutions financières afin de leur demander une contribution. Le 9 mai 1971, un gala secours a lieu au centre Georges Vézina à Chicoutimi pour recueillir de l'argent pour les sinistrés. Devant une foule de 5500 personnes, un peu plus de 30 artistes se produisent au cours de cette soirée bénéfice qui permet, grâce à un prix d'entrée de... Oseriez-vous dire le prix d'entrée en 1971?
Je...
1,50$.
Ah, mon Dieu.
Mais c'était une somme...
Ça devait être...
Oui, parce qu'à l'époque, écoutez, un salaire... Un 70 de, annuel était autour de 5 000, 5 200 là, pour beaucoup, beaucoup de personnes.
Oui, donc 1,50 $, c'était beaucoup. Mm-hmm. Puis c'était donc tout au profit de...
Oui, et il permet d'amasser la somme de 8 650 $. Le Fonds d'aide aux sinistrés lance ensuite une immense campagne de souscription auprès du public québécois et qui permettra d'amasser un total de 850 000 $
quand même.
Ouais, auprès de toute la population du Québec.
Mm-hmm.
Malgré le réconfort émotif et matériel provenant d'un peu partout, il reste à décider de l'avenir de cette municipalité et de ses habitants. Depuis les événements du 4 mai, un grand nombre de scénarios sont proposés aux sinistrés. Ceux-ci vont de la reconstruction de Saint-Jean-Vianney au nivellement complet de la municipalité, c'est-à-dire on rase tout, puis
ouais.
on oublie ça. Le 27 mai 1971, la fermeture définitive de Saint-Jean-Vianney et de la partie déjà évacuée du territoire de la municipalité de Chibcha est douloureuse, mais c'est une décision du Conseil des ministres qui se base sur l'avis des géologues. La dernière personne à quitter est M. Égide Bouliane, curé de la paroisse, et il demeure dans le presbytère de Saint-Jean-Vianney jusqu'à l'été 1972. Alors, c'est ça, c'est lui qui a été vraiment fermé le
village. Mais donc, le village existe encore, mais juste pas là au même endroit qu'avant. Il y a encore un Saint-Jean-Vianney qui existe.
Je ne sais pas s'ils l'ont renommé Saint-Jean-Vianney.
On va vous dire ça après une courte pause.
Oui, je pense
plus d'informations. Mais nous, on se retrouve pour une deuxième demi-heure de Kiosque Magazine après une courte pause.
Non, il est...
Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on écoute les méandres au creux des reins, et tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ourse, c'est la trajectoire de la course à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant, lui. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Ce parfum de nos années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte, infinité de destins, on en pose un, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera. Tout
disparaîtra. Le vent nous portera.
Charbonnier de l'enfer qui nous chantait « Le vent nous portera ».
Merci beaucoup. Et pour revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, Saint-Jean-Vianney, bien, c'est complètement disparu. Il y a maintenant une subdivision du secteur Chipcha de la ville de Jonquière qui s'appelle Saint-Jean-Vianney, mais c'est pas... C'est pas les anciens, toutes les anciennes maisons. Il y a des maisons qui ont été carrément déménagées. Hein? Certaines à Chipcha, puis d'autres à Arvida, et puis voilà. Bien, merci beaucoup. Alors, dans un tout autre sujet, comme toujours, je vais vous parler maintenant dans le cadre de l'enquête sur les femmes autochtones, l'homme qui traduit les mots en mots, donc les mots M-A-U-X en mots M-O-T-S. C'est un article qui a été publié le 1er décembre sur le site de Ici Côte-Nord, le site de Radio-Canada, et qui est signé Marie-Laure Josselin. Gervais Malek est l'un des trois traducteurs à Malio-Ténam, sur la Côte-Nord, pour l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qu'on va appeler NFADA pour faciliter le texte par la suite. Sa mission, traduire le plus fidèlement possible, mais mettre aussi l'émotion pour que les commissaires et le public saisissent la douleur de ce qui se passe dans nos communautés. L'ancien animateur de radio connaît très bien les réalités des communautés qui ont témoigné cette semaine, donc la semaine du 1er décembre, à l'NFADA. Natif de la Romaine, il vit désormais à Pakwashipi, où il est directeur des programmes. Il gère notamment l'emploi, la formation et le développement économique. Mais avant, il a été organisateur communautaire, ce qui lui a donné l'expérience d'écouter des propos difficiles. Et le reste de l'article est sous forme de questions-réponses. Comment réussir à trouver les bons mots pour expliquer toute cette douleur? Premièrement, il faut que tu comprennes le français, car certains mots dans la langue française n'existent pas dans la langue inoue. Surtout quand tu dois traduire des mots très durs, des mots sur la sexualité, ce n'est pas évident de traduire cela en inoue. Je vais prendre un exemple avec le mot « école ». Dans la langue française, c'est assez court, mais quand tu essaies de le traduire en inoue, « kachi shkuta machuchwap »
Pour école?
Voilà, veut dire « la maison où tu enseignes, où tu apprends ». C'est assez long et imagé. Trouver les mots pour décrire les émotions, les sentiments n'est pas évident non plus, car tu as beaucoup de variantes en français comparé à l'inou. Cela prend aussi beaucoup d'écoute. De plus, il faut connaître la réalité des personnes qui témoignent, connaître le village, leur environnement et cette réalité pour mieux saisir ce qu'ils ont à dire. Enfin, il faut mettre l'émotion dans le mot. Le monde, que ce soit les commissaires, le public ou les médias, saisit mieux ainsi la réalité autochtone. Est-ce que des fois la pudeur vient nous tirailler? Oui. Des fois, je n'osais pas, puis je me disais que je devais faire abstraction de ce que je ressentais. Mon rôle est de rapporter le mot utilisé. Je trouve ça important, car je ne serais pas neutre si je n'interprétais pas bien. Il est certain que des fois, ça me faisait quelque chose. C'est une femme qui a subi des choses par un homme, et je suis un homme. Des fois, ça m'a un peu effleurée, mais je me suis dit que je devais faire abstraction et faire mon travail au meilleur de moi-même. Je suis là pour les aider. Aider les familles inoues qui ont perdu des enfants, qui ont disparu, pour aider la commission d'enquête à bien saisir ce que vivent nos femmes. Comment arrive-t-on à tenir quand on est submergé par l'émotion? Je suis beaucoup intervenue par le passé. J'ai écouté plusieurs fois des Inuits parler de leur réalité. Je connais ce qu'ils vivent. Quand j'étais travailleur autonome, sur ma carte d'affaires était écrit ce slogan « Être compris et entendu ». Là, je n'ai pas eu peur d'utiliser les mots. Si je ne traduisais pas fidèlement, je me demanderais ce que je fais là. Ce sont les vrais mots. C'est sûr que c'est douloureux, mais ce sont les mots utilisés. Vous êtes interprète et membre de la communauté. Ce ne doit pas être évident. Ce n'est pas évident de mentionner le nom d'une personne et surtout de vivre dans une petite communauté où tout le monde se connaît. Des fois, c'est vraiment dur. Les gens avaient le choix de parler à huis clos ou de parler devant le public. C'est leur choix, leur vécu. Ils disent que c'est une forme de guérison pour nous et je peux les comprendre, mais il y en a qui ne voulaient pas parler publiquement car ils trouvaient ça... Il y avait la pudeur, ils étaient pudiques et je peux les comprendre aussi. Comment voyez-vous les conséquences du passage de la commission? J'ai beaucoup d'espoir dans les recommandations qui vont émaner de cette commission, mais le travail dans les communautés doit continuer. Quelques personnes ont témoigné, mais imaginez ceux qui ont entendu ça. Dans le cas du producteur américain Harvey Weinstein ou du fondateur de Juste pour rire, Gilbert Rozon, ça a eu un effet boule de neige et j'espère que la commission va avoir le même effet pour que ce genre d'acte soit dénoncé. Il va falloir qu'on augmente significativement les intervenants dans nos communautés aussi. Oui, il y a l'aide qui sera offerte aux femmes, mais il ne faut pas oublier qu'on vit dans une communauté. Il faut aussi penser aux hommes, car ils ont aussi vécu des choses qui se sont transmises de génération en génération. Ça a commencé au contact des prêtres, puis dans les pensionnats. La commission doit aller encore dans les communautés, car ce qu'on a entendu, ce ne sont que quelques personnes. En terminant, on demande donc à... Je me suis déjà oublié son nom, à Gervais Malek. La dernière question qu'on lui pose, est-ce que c'est la pointe de l'iceberg? Oui, mais je ne sais pas comment est l'autre partie de l'iceberg. Alors, Serge,
oui, j'aimerais juste
vous nous ramener dans commencer... la maladie encore? Dans l'histoire d'amour, maintenant, oui.
Mais juste avant, j'aimerais ça revenir sur votre article. Je suis fasciné, parce qu'imaginez de dire, au lieu de dire « je vais à l'école, je vais à l'endroit où on apprend ».
Oui, c'est ça dit ce que ça dit.
Oui, c'est ça.
Ça a tellement plus de valeur.
Ben oui.
On sait tout de suite de quoi il retourne.
Le village, mais ça devait être... le groupe de maisons. L'endroit où il y a des maisons. Je vais à l'épicerie.
Où la communauté se rassemble.
Je vais à l'épicerie, je vais... à l'endroit où je vais acheter des choses pour me nourrir.
Voilà. Alors, quand on dit que... j'ai déjà parlé avec un traducteur qui traduit de l'anglais au français et le texte est 15% plus long en français.
Ben oui.
Alors, imaginez quand on le traduit après ça. Hein. Mais c'est pas une langue qui a été faite pour être écrite aussi. Il ne faut pas oublier ça. Donc, les images sont très importantes.
Mais je trouve que ça permet... Ça permet des images.
Ouais.
Imaginez plus que...
Exactement.
Alors, que sont devenues nos lettres d'amour? C'est dans la revue Cap au Diamant de l'été 2005, un article de Jennifer Lonergan. Alors, évidemment, c'est ça, il faut tenir compte que c'est en 2005, donc tous les chiffres qu'on va donner, tout ça, mais ça peut paraître un peu dépassé, mais c'était intéressant, je trouvais, pour...
C'est intéressant de voir comment on voyait les choses.
C'est ça,
des fois, on oublie tellement ça va vite.
Alors, en 2005, des devins de toutes sortes prévoient et déplorent depuis des décennies la disparition imminente de l'art épistolaire dans le monde industrialisé. Professeurs et essayistes regrettent la diminution des capacités rédactionnelles et l'indifférence croissante à l'égard des arts épistolaires. Les journalistes citent des PDG qui prévoient la fin de la poste traditionnelle, tandis que les chroniqueurs pleurent la perte du plaisir et de la poésie associés à la lettre écrite à la main. Selon certains historiens, les générations futures seront privées d'une source primaire d'informations importantes et les services postaux du monde entier font des pieds et des mains pour trouver de nouvelles sources de revenus pour compenser les pertes qui découleront d'une réduction du volume de courrier de première classe. Et ça, à quoi qu'on assiste aujourd'hui.
Oui, effectivement.
Hein? Ouais. Quand ce genre de prophétie a commencé à apparaître dans les journaux et les revues, dès les années 1981, elle semblait alarmiste. Après tout, selon les études, la quantité de correspondance personnelle était demeurée stable pendant environ 20 ans. Le volume total de courriers a continué d'augmenter, poussé surtout par la tendance vers le publipostage, évidemment.
Publipostage, et ça existe encore.
Ah oui, beaucoup.
C'est ce qui reste, en fait, dans la boîte aux lettres.
C'est ça, oui. Je pense que je dois dire 70% que j'ai comme courrier, c'est ça.
Moi, je travaille dans une résidence pour personnes retraitées, puis en ce moment, là, c'est Centraide, c'est les petits frères des pauvres, l'Armée du Salut, là, c'est les boîtes aux lettres sont pleines.
Ah ouais. Et le développement également de services de messagerie et d'autres produits. Selon l'Union postale universelle, le volume de courriers s'est accru jusqu'en 2001 dans les pays industrialisés. Après ça, ça a commencé à baisser.
Oui.
En 2005, selon les statistiques, les lettres envoyées d'une personne à l'autre représenteraient moins de 5% du volume total de courriers en Amérique du Nord. Donc, on doit être rendu à je ne sais pas combien de pourcentage maintenant. J'ai cherché un peu à voir, mais sur Internet hier, je n'ai pas rien trouvé.
Ça doit être difficile.
Ouais, mm-hmm. Combien de lettres... Bon, là, on arrive à notre sujet, les lettres d'amour. Combien de lettres d'amour sont incluses dans ce pourcentage infime? On ne peut que faire des suppositions à ce sujet. Si la correspondance par lettre disparaît bientôt, la première victime sera sans doute la lettre d'amour. D'ailleurs, depuis quand avez-vous, je pose la question à nous trois, à nous deux et à notre collègue en régie, la dernière fois que vous avez reçu quelque chose d'écrit à la main, pas nécessairement une lettre d'amour, là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce serait quelque chose qui est écrit à la main.
Ça fait très longtemps, probablement. À chaque année à Noël, j'ai une amie qui m'envoie la traditionnelle photo avec les... Là, ils sont rendus à cinq enfants maintenant. Il y a toujours un enfant de plus à chaque Noël. Puis il y a une petite note à la main avec ça. Oh, ouais. Mais moi, j'ai écrit une lettre d'amour à mon mari il y a deux, trois semaines. Oui, il ne m'a pas répondu par contre. Donc, je ne peux pas vous dire que j'ai reçu, mais lui, oui.
OK. Et notre ami en régie...
mon côté, je sais pas, au moins, j'en ai déjà reçu. Et là, je pense que ça remonte, peut-être la personne avait lu la revue, ça remonte environ à 2005.
Il y a peut-être eu une recrudescence en 2005.
Ouais, ben c'est ça, ouais. Moi, la dernière que j'ai reçu, j'ai un ami qui voyage beaucoup et de temps en temps, lui aime ça envoyer une carte postale.
Ah oui, ça c'est bien. Ouais. C'est vrai, quand on a des amis à l'étranger...
Oui, j'avais oublié. Je reçois des cartes postales à l'occasion. J'insiste, je donne mon adresse aux gens.
Oui.
Envoie-moi une carte.
Effectivement, c'est une bonne
idée. Alors, en 2005, le Musée canadien de la Poste faisait des recherches sur les lettres d'amour en vue d'une exposition qui montrait à ce moment-là le rôle de la Poste dans la culture populaire. La lettre d'amour est une tradition qui existe depuis longtemps. Elle est parfois associée aux origines de l'amour courtois, ensemble de conventions qui datent du 12e siècle et qui gouvernent le comportement des amoureux. Les poèmes et les chansons d'amour que les troubadours composaient et chantaient à leurs bien-aimés ont peut-être engendré cette association, au moins en partie, parce que ces formes ont des éléments en commun avec la lettre d'amour. Il y a aussi le fait que certaines des lettres d'amour les plus célèbres, celles d'Héloïse et Abélard par exemple, ont été écrites à cette époque. Abélard était le maître d'Héloïse. Il n'y a pas de consensus sur les détails de leur amour, mais on sait qu'Héloïse a épousé Abélard en secret après avoir donné naissance à son fils. Oh là là. Par la suite, sa famille a fait attaquer et masculer Abélard. Il s'est retiré, Abélard, dans une abbaye. Elle a pris le voile, mais
Il n'est pas mort d'avoir été massacré et émasculé. Ouais,
Héloïse a pris le voile. Mais leurs lettres d'amour passionnées sont devenues légendaires, on les lit depuis des siècles. En fait, les lettres d'amour remontent au moins à Ovide, un poète romain qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il en a écrit à sa femme. La tradition de la lettre d'amour semble avoir fleuri jusqu'au 20e siècle. Beaucoup de recherches ont été faites sur les lettres d'amour qui ont été écrites au cours des trois derniers siècles. Et puis, il existe de nombreuses collections de lettres d'amour rédigées au 20e siècle par des personnes célèbres. Dans les années 1990, on publiait encore des chapitres, même des livres sur l'art de la lettre d'amour.
Eh bien.
Il est difficile de trouver un commentateur qui croit que le courriel peut remplacer la lettre d'amour. Selon Leslie Katz, professeur à l'Université de Toronto, la lettre d'amour porte tant de traces de l'amoureux, y compris l'écriture et l'odeur, et peut tenir la place de l'amoureux quand il est absent. Elle est tactile, on peut la toucher, la mettre dans sa poche, sous son oreiller, dans un tiroir, entre les pages d'un livre. On peut la sortir, la plier, la déplier et réexaminer de façon générale ce qui avait été écrit.
C'est vrai.
Avec le courriel, ce n'est pas la même chose. C'est précisément l'aspect matériel de la lettre d'amour qui la distinguera toujours du courriel et des autres médias électroniques. Quoi qu'il en soit, la lettre d'amour semble être en voie de disparition. Sniff, sniff. Selon des témoignages anecdotiques, la plupart des jeunes qui avaient de 15 à 20 ans, quand le déclin de la lettre personnelle a commencé à se faire sentir, il y a 5 ans, donc en 2000, selon le texte, n'ont jamais envoyé ni reçu de lettres d'amour traditionnelles écrites à la main.
De toute leur vie.
Oui, ceux qui étaient en 2000. Donc aujourd'hui, ça doit être encore beaucoup plus élevé.
Marqué.
En fait, l'idée d'une telle lettre fait grimacer la plupart d'entre eux. Peut-être parce qu'ils n'y comprennent rien. Cependant, ils ont tous envoyé et reçu l'équivalent d'une lettre d'amour par courriel ou par messagerie instantanée. Bon, ben tant mieux. au moins.
Oui, mais c'est ouais. ce qui est, c'est le texto hein, qui ouais. remplit mm-hmm. la Messenger.
Ouais,
là,
ouais. Mm-hmm.
On a des petits stickers maintenant mm-hmm. Qui font des mm-hmm. qui envoient des petites images avec des cœurs qui sortent du.
Oui, oui, oui. Ouais. C'est qui est aussi gentil. Puis, au moins, ouais. ça fait plus humain un petit peu, là, plus chaleureux. Et ceux qui ont des cellulaires ont essayé d'envoyer des SMS assimilables à des lettres d'amour. Serions-nous sur le point ouais. de perdre cet art? Alors, le Musée canadien de la Poste s'intéressait à ce moment-là à vos lettres d'amour. Je suis allé sur Internet et effectivement, on parle que c'est en 2006, ils ont fait une exposition. Je ne sais pas si elle est toujours en...
Si elle est devenue permanente ou non.
Elle est devenue permanente ou il doit peut-être rester des petits bouts peut-être qu'ils ont conservés, mais c'est à Ottawa.
Ah oui. Alors, faudrait aller à la prochaine Ottawa. Fois que j'irai, je vous en donnerai des
oui,
nouvelles.
D'accord.
Alors, parlant de lettres d'amour, ben moi, je vous parle complètement d'autre chose, en fait. Le cœur du racisme systémique, c'est un article de Manon Dumais paru dans Le Devoir le 25 novembre 2017. Lauréate d'un prix du gouverneur général pour son recueil de poésie « North End Love Songs », Katrina Vermette, Katrina, ça s'écrit K-A-T-H-E-R-E-N-A, c'est une anglophone, s'est inspirée de ses origines autochtones pour signer un premier roman plus que prometteur où s'harmonise lyrisme introspectif, poésie brutale et langue crue. Je précise tout de suite d'entrée de jeu que je suis allée voir, j'ai pas trouvé au SQLA aucun des titres qui sont mentionnés dans l'article. J'ai décidé de vous parler quand même de cette lettre, de ce roman-là, parce mm-hmm. que ça parle vraiment d'un sujet qui n'est pas abordé souvent et qui selon Manon Dumais, du moins, semble avoir bien été abordé. Donc, à l'instar du Legs d'Eva, roman de Wabgeshish, W-A-U-B-G-E-S-H-I-G, Rice, Wabgeshish Rice, qui relatait les dommages collatéraux du meurtre d'une brillante étudiante Ojibwe sur sa famille, Ligne brisée s'avère un douloureux rappel du tragique sort des femmes autochtones et du racisme systémique dont sont victimes les Premières Nations. « C'est une sauvage, Tommy », disait son père quand il croyait qu'elle n'était pas en mesure d'entendre. « Je l'ai sortie de la réserve pour pas cher », se rappelle l'agent Scott, surnommé Timitis, par son confrère plus âgé, l'agent Christie. C'est une citation, je crois, du roman. Avant de devenir policier, Scott a toujours vécu comme un blanc. C'est sa compagne, Blanche, qui lui a suggéré de cocher cette case afin d'obtenir plus facilement un emploi. Jamais il n'aurait deviné que cette connexion avec ses racines le placerait face à cette tragédie, face à une tragédie. Cette vertigineuse plongée dans ce monde où l'homme a peu souvent le beau rôle devient aussi enrichissante pour lui que pour le lecteur. De fait, avec Christie, Scott est amené à enquêter sur l'agression sexuelle d'une violence inouïe dont a été victime Emily, autochtone de 13 ans. Au cours de cette enquête, il fait la connaissance d'un clan tissé serré, composé de femmes à la fois fortes et vulnérables. C'est j'aime ça, cette image-là, mm-hmm. parce que ça semble contradictoire, à la fois forte et vulnérable, mais c'est le symbole de l'être humain, en fait. Les faisant surgir parmi les relents d'alcool, la fumée de cigarettes et les effluves de thé, Katrina Vermette esquisse d'émouvants portraits de femmes à travers leur propre regard, souvent impitoyable, et le regard bienveillant ou envieux des autres, laissant ainsi au lecteur la tâche de réunir les morceaux et d'obtenir un saisissant tableau de famille. Par leur manière, leur allure, ces femmes rappellent à Scott sa mère, ce qui lui donne enfin l'impression d'appartenir à une communauté, d'où son envie d'y faire régner la justice. Encore une citation, « Elles se ressemblent toutes, tout simplement, Cheryl, Rain, Stella, Paul, Lou et Emily également. » La plus jeune des filles ressemble aussi à chacune d'elles. Bouleversant roman polyphonique, Ligne brisée donne tour à tour une voix à ces femmes qui livrent leur vision de la réalité. À travers ces récits tissés habilement les uns aux autres, la romancière insuffle avec finesse une dimension spirituelle, servant de fil rouge entre chaque partie du roman. La voix de Rain, disparue tragiquement il y a 15 ans, plane telle une entité omnisciente et protectrice au-dessus de ces femmes. Bien que la romancière entretienne parfaitement le mystère autour des agresseurs, ce n'est pas tant l'enquête ni ses détails sordides qui suscitent le plus d'intérêt. Alors que les femmes autochtones sont victimes de l'indifférence, voire de l'oubli de la communauté blanche, Katrina Vermette illustre sans verser dans l'angélisme l'amour, le respect et l'entraide qui les soudent ensemble. Un roman fucking beau, comme diraient les personnages de Ligne brisée. Et elle termine avec une citation, un extrait de Ligne brisée. Dans les années 60, une fois que les Indiens inscrits au registre ont été autorisés à quitter les réserves, plusieurs ont migré vers la ville et se sont installés dans le quartier. C'est à cette époque que les Européens ont lentement commencé à le déserter, comme un homme abandonnant une femme endormie dans la nuit noire. À présent, il y a énormément d'Indiens ici, de grosses familles, de bonnes personnes, mais aussi des gangs, des prostituées, des planques à droguer. Et toutes ces belles et grandes maisons s'affaissent, fatiguées, comme les vieillards qui les habitent encore. Et c'est donc le roman de Katrina Vermette, traduit de l'anglais par Mélissa Véro, publié sous Québec Amérique. 451 pages.
Je l'ai pas lu.
Oui, excusez, on est en onde. Bonjour tout le monde. On se demandait c'était quoi le petit bruit de fond, là, si jamais vous avez remarqué, mais c'est qu'il y a des petits travaux dans la bâtisse. Alors, Serge.
Oui, alors, j'ai trouvé, comme on a un peu de temps, dans les cahiers sciences et vie toujours, potions, amulettes et autres remèdes. Ah, c'était pour soigner les maladies,
c'est
les différentes maladies de l'époque.
C'est toujours intéressant.
Oui. S'ils ne savent guérir les maladies épidémiques, les médecins disposent dès l'Antiquité d'une large panoplie de remèdes pour en soigner les symptômes. Au IIe siècle, Galien utilise, contre ce que l'on a identifié aujourd'hui comme étant la variole, une potion à base de terre d'Arménie, une argile assez pure qui peut être avalée ou appliquée sur les pustules pour les assécher. Le médecin dit même que c'est le seul véritable remède contre la maladie.
Oui, bien sûr.
Souligne Véronique Boudon-Milot, spécialiste de l'histoire de la médecine antique. Des milliers de recettes existent qui mêlent des ingrédients d'origine animale, végétale et minérale. Bon, contre la peste, les chimistes du Moyen Âge concoctent des boissons et des emplâtres à base de plantes. Le saxifrage. J'ai jamais entendu parler de ça.
Saxifrage. C'est le nom d'une plante ou du remède?
C'est une plante.
OK.
Saxifrage, le romarin, l'armoise et des substances opiacées. Plus surprenant, certains remèdes sont fabriqués à base d'animaux venimeux.
Oh.
Crapauds, scorpions, serpents, etc. Nous sommes quasiment dans le domaine de la magie. L'idée est de combattre le mal par le mal.
Par le mal, oui, ouais. C'est ça. Bien sûr.
La peste qui s'apparente à une sorte de venin entrant dans le corps peut ainsi être combattue par un autre venin, poursuit l'historienne. Pour des raisons identiques, les malades portent des amulettes renfermant de l'arsenic, du mercure ou de l'antimoine. Des poisons susceptibles d'extirper le venin de la peste du corps. D'autres remèdes recourent à la poudre de sabot de cheval, du corail, des yeux de crabe, des griffes d'animaux. Contre la tuberculose, certains préconisent des broyats de poumons de loup.
Des broyats de
poumons de loup.
Oh.
De cerf,
pauvre
ou
loup.
De renard, de mou de veau, de chair de vipère ou de lézard.
Ça, c'est les médecins, ça, qui...
Oui, les médecins de l'époque.
Puis après ça, on brûlait les sorcières parce qu'ils nous donnaient des plantes en décoction.
Ouais. Les médecins prodiguent également des conseils alimentaires. Pour résister à la peste, mieux vaut terminer chaque repas, attention, par un oignon cru ou une gousse d'ail.
Ah oui, ben
ça c'est bon pour la santé.
Mais si ça ne repousse pas la peste, ça repousse les amis.
Oui, c'est ça, oui. Quant au lait de femme, d'ânesse, de vache ou de chèvre, ils sont, dit-on, excellents pour rendre la toux des tuberculeux moins pénible.
Oh.
Et puis, il y a une multitude de recettes pour purifier l'air et se protéger des miasmes qui le contaminent. Lors des épidémies de peste, on fait grand usage de parfums à base de plantes. Seules les personnes sont aspergées de mélanges aromatiques. Maisons, vêtements et monnaies sont désinfectés avec un vinaigre dit des quatre voleurs, dans lequel on a fait macérer des aromates à l'odeur puissante, ail, thym, camphre, lavande et menthe. Dernier atout, pour repousser la maladie, il est conseillé d'accueillir un bélier puant dans sa maison. D'enduire son corps d'huile ou de porter une couverture de cheval. Bon.
OK, pas le corps du bélier. Je pensais qu'il fallait avoir le bélier puis enduire le bélier d'huile. Mais non, c'est son propre corps.
Ouais.
OK.
L'efficacité de ces remèdes curatifs ou préventifs est toute relative. Et il faudra attendre le 20e siècle pour que de nouveaux médicaments sulfamides et antibiotiques permettent effectivement de guérir la plupart des maladies épidémiques. Donc, vous avez toutes les recettes pour vous guérir maintenant.
Oh là là! Oui, bien, j'ai pas pris note, mais en tout cas, si jamais vous voulez des détails sur exactement là, combien de poudre de poumon de loup, ben vous nous écrirez... Alors, ben, c'est comme ça que se termine l'émission Kiosque Magazine. Kiosque, non, c'est pas ça du tout. C'est Mon Dieu Seigneur, je suis de retour en 2010. C'est Les Voix de Service Magazine. Et j'étais avec Serge Bradet. Je suis Isabelle Falardeau. Et je remercie Maurice Bolduc à la mise en onde et aux choix musicaux. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine.
Et Daniel sera là la semaine prochaine.
Oui, on espère.
D'accord.
Tout bronzé.